Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Mercredi 29 septembre, bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, ce matin, on a un ciel qui est un peu nuageux, c'est autour de 10 degrés, donc c'est un petit matin quand même assez frais, avec un maximum prévu pour aujourd'hui de 15 degrés, à un faible risque de pluie, d'averse au cours de la journée, à 30 %, donc quand même rien de très, très préoccupant. Pour la soirée, ça demeure couvert, avec encore là peut-être un peu de pluie. Le dégagement va se faire au cours de la nuit. Le mercure va tomber à 6 degrés durant la nuit. Et demain, jeudi, c'est généralement ensoleillé, 17 degrés. Et vendredi, c'est du soleil, 19. Pour l'instant, pas trop s'avancer pour la fin de semaine, mais disons qu'on prévoit du temps couvert et des averses, surtout samedi soir et dimanche dans la journée. Bon, dossier COVID. D'abord, Québec a annoncé l'administration de la troisième dose du vaccin pour les personnes âgées qui vivent dans un centre de soins de longue durée ou encore dans une résidence pour personnes âgées. Donc, on se rend compte d'abord que, en termes de cas, ça semble vouloir se stabiliser. C'est pas parfait, c'est pas une victoire, c'est pas que la COVID est chose du passé, mais disons que c'est sous contrôle et qu'on sait que le vaccin pour les personnes âgées qui ont reçu en premier la première dose, ben, perd de l'efficacité. Et donc, c'est une troisième dose qui vient comme augmenter le système de défense des personnes âgées. Alors, dans ce sens-là, c'est une bonne nouvelle, surtout qu'on commençait à avoir des foyers d'éclosion dans des résidences de personnes âgées. Au point de presse hier, un autre élément qui n'est pas encore précis, mais le docteur Arruda dit quand même qu'il pense être en mesure, peut-être sous peu, hein, il y a bien des bémols, là, d'annoncer certains allègements en ce qui concerne les mesures sanitaires. Alors, on peut penser que, par exemple, pour les amphithéâtres, pour les spectacles, on pourrait permettre d'augmenter la capacité. Est-ce qu'on va exiger la double vaccination? Probablement que oui. Mais si les prochaines semaines, on garde le même scénario, en fait la même tendance, ben on risque quand même d'avoir des bonnes nouvelles de ce côté-là. Et pour ce qui est des infirmières, ben on a vu hier le ministre Christian Dubé dire que conscient qu'il y a des sceptiques et promet de rendre public rapidement des ententes dans le milieu là, des ententes terrain qui vont permettre justement de pouvoir remplir l'engagement au-delà des montants d'argent, au-delà des primes et des bonis. Je vais vous parler de deux, trois éléments parallèles de ça. D'abord, concernant les écoles, on le sait, là, pour ce qui est de la vaccination des enfants, les demandes sont même pas déposées à Santé Canada de la part de Pfizer. Alors, ça veut dire que ça va prendre encore un certain temps avant d'obtenir la réponse, ce qui veut dire que la vaccination des enfants va quand même se passer peut-être d'ici la fin de l'année ou quelque part au début de l'année prochaine. Pour ce qui est des personnes âgées, pour la troisième dose, on va faire le tour des établissements et on va administrer le vaccin en même temps que celui qui est prévu pour l'influenza. Et il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de contre-indication de procéder ainsi. Mais je vous donne l'exemple d'une école du merveilleux Centre de services scolaires de Montréal, l'école primaire Saint-Odile. Une classe de deuxième année de l'école est forcée de fermer pour une deuxième fois en deux semaines en raison de la COVID. Je vous fais une chrono rapide. Jeudi 16 septembre, les parents sont informés qu'un élève de deuxième année est testé positif à la COVID. La classe est fermée de façon préventive dès le lendemain, et ce jusqu'à nouvel ordre. Vendredi 17, deuxième élève du groupe a été déclaré positif à la COVID. Dimanche 19, on apprend que 7 cas d'élèves sont positifs. Les élèves qui ont été testés du 13 au 17 septembre, dans trois situations, il s'agissait d'un deuxième cas positif dans la classe. Alors, conformément aux directives de santé publique, semble-t-il, l'école demeure ouverte. Lundi 20 septembre, les parents sont avisés en soirée de la fermeture temporaire de l'école et de son annexe pour le lendemain, et ce jusqu'au vendredi 24 septembre. On demande aux parents de faire passer un test. Et on sait que les tests de ce temps-là, c'est pas simple pour beaucoup de parents. C'est même plutôt compliqué. Mardi 21 septembre, c'est le retour des élèves, début des cours en virtuel là, pour les élèves qui étaient à la maison depuis le vendredi. Mercredi 22 septembre, la santé publique confirme que les élèves doivent demeurer en isolement jusqu'au 26. Lundi 27, retour en classe des élèves qui étaient isolés. Mardi 28, la santé publique, après enquête, décide de fermer pour une deuxième fois en deux semaines la classe de deuxième année. Là, les parents se demandent, là, c'est quoi la gestion qu'on fait dans ces cas-là? Tu sais, on retire, on ferme un petit peu, pas beaucoup, ferme l'école, ferme une classe, et des complications pour aller se faire tester. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple que je vais vous donner, c'est un chantier de construction. Je ne dirai pas lequel, pour ne pas qu'on puisse identifier, disons, les travailleurs qui jasent, mais disons que c'est un gros chantier, couronne nord de Montréal. Et ils se sont retrouvés avec un manque de personnel, des travailleurs spécialisés qui ne se sont pas présentés parce qu'il y en avait quatre qui avaient testé positif à la COVID. Jusque-là, il n'y a pas de problème. On demande à tout le monde d'aller se faire tester. Ça, c'est lundi. Retour le mercredi, on se rend compte que plusieurs ne sont pas allés se faire tester, n'ont pas de résultats et sont sur le chantier. Il y a quelqu'un qui décide d'appeler la CNESST. Et on dit, ouais, on va aller vérifier ce qui se passe. Fait qu'on est passé de deux travailleurs spécialisés positifs à six sur le chantier. Et la semaine dernière, ils étaient rendus à huit et le chantier continuait d'opérer. Et il paraît que la santé publique de ce coin-là avait pas l'air tellement préoccupée. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand vous regardez le type d'éclosion, on connaît les paramètres. Les cas, principalement, sont des gens pas du tout vaccinés ou avec une seule dose, donc pas pleinement vaccinés. Ça touche beaucoup d'écoles parce que les enfants sont pas vaccinés. Et parfois, les enfants transmettent aux parents dans certains milieux de travail. Puis quand les milieux de travail prennent pas les mesures, ben on passe de 4, 5, 6, 7, 8, 10 cas assez rapidement. Donc, peut-être attirer votre attention sur cette réalité. Maintenant, pour ce qui est toujours des écoles, c'est un autre mystère, celui des tests rapides. Dans les 10 régions où la COVID est surtout active, des dizaines de milliers de tests rapides seront déployés, paraît-il, dans les prochains jours. Ça a l'air à prendre bien du temps. Alors, est-ce que ça va être partout? Il y a des régions qui, paraît-il, vont pas recevoir, ou en tout cas, il y a des délais importants. Et à Québec, on semble indiquer aussi qu'on va faire en sorte, non seulement pour les écoles, mais d'essayer de rendre ça un peu plus disponible. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'apprécieraient. J'écoutais le Dr Fauci, hier aux États-Unis, qui parlait justement de l'arsenal, en disant que le test rapide, ça devrait être accessible à tout le monde. T'as pas besoin d'avoir un diplôme en médecine pour faire passer le test. Ça se fait comme ça. C'est pas parfait, mais c'est toujours mieux que rien. Et vous avez aussi des projections rendues publiques par l'Institut national de santé publique qui dit que la levée des mesures sanitaires mettrait les jeunes à risque. Principalement, on le disait, les jeunes de moins de 12 ans. Alors voilà pour ce qui est du dossier COVID ce matin. C'est à peu près le tour qu'on peut faire, là, parce que c'est sûr qu'il y a une préoccupation dans les écoles. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est la vaccination obligatoire. On arrive, là, vendredi 1er octobre, le 15, les gens sont vaccinés dans le réseau de la santé ou encore seront suspendus sans solde. C'est dur d'avoir un chiffre précis, mais on parle de milliers de travailleurs qui ne sont pas vaccinés correctement et qui ne sont pas là pour le 15. Voici les mesures qui ont été envoyées par le 6 des Laurentides et paraît-il que c'est inspiré des mesures prises par le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Donc, le plan est appliqué dès qu'une ressource est manquante dans un quart de travail. En contexte de pandémie, lorsque l'état d'urgence est décrété par le gouvernement, on s'attend à ce que les vacances et les congés soient annulés et reportés. Les employés dont les activités sont délestées, personnel administratif, personnel de loisirs, gestionnaire, doivent contribuer aux activités prioritaires de soins des résidents. On doit envisager des horaires de 12 heures quand les quarts de soir et de nuit sont difficiles à combler. On va parler tantôt à une propriétaire que je peux pas identifier parce qu'on sait c'est quoi, là. C'est l'omerta dans le réseau, puis quelqu'un peut être victime de représailles. Et elle est pas trop inquiète parce que la presque totalité de ses employés sont vaccinés. Mais elle dit, je fais quoi, moi, là? J'ai une préposée qui veut pas. Si je peux pas la faire entrer, alors que dans le réseau, on manque de préposés, on fait quoi? Qui va donner les soins? Puis est-ce que je vais perdre des gens qui vont aller travailler dans le réseau? C'est toutes ces questions-là qui se posent. Et donc, elle dit, les hôpitaux, les centres sont même pas capables de trouver le personnel requis. La semaine dernière, la PDG du CIS des Laurentides disait qu'il y avait au total 500 postes qui n'avaient pas été comblés. Alors, comment vous pensez qu'une résidence pour personnes âgées va être capable de trouver du personnel? Parlons maintenant de la Caisse de dépôt qui a pris une espèce de virage vert. Le président, chef de la direction, M. Aymon, Charles Aymon sera avec nous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse tomber le pétrole, progressivement. Le gaz naturel, non. Et certains investissements dans des pipelines, dans des infrastructures, vont demeurer. Donc, la Caisse ne va pas investir dans des oléoducs, dans des pipelines, mais son portefeuille va conserver les investissements déjà faits. Puis il y en a aux États-Unis, il y en a quand même à certains endroits. Et on dit qu'on va réduire, pour avoir, disons, une espèce d'effet carboneutre, d'ici 2050. Alors, d'un côté, tu sors du pétrole, tu réduis tes investissements graduellement, puis de l'autre, ben, t'investis dans des domaines d'avenir, des domaines verts, si on veut. Puis aussi, on veut aider des entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Bon, on parle toujours d'objectifs, c'est quand même un plan. Faut jamais oublier que la Caisse de dépôt, sa job, c'est de faire des rendements. Est-ce qu'ils vont perdre des rendements? La Caisse n'a pas l'air tellement inquiète de ça. Il y a certains analystes ce matin qui disent « Ouais, mais il faut calculer qu'à chaque année, on ajoute des capitaux. » Donc, l'engagement de la Caisse, je parle de Francis Veil dans la presse, bien qu'il soit notable, c'est pas non plus autant que ce qu'on laisse entendre. Mais c'est un premier virage. Et souvent, des dirigeants de Caisse puis des présidents de conseils d'administration vous diront « Quand on a des investissements... questionnable sur le plan éthique ou sur le plan moral ou des valeurs qu'on défend. L'argument, c'est de se débarrasser des actifs ou encore de rester présent pour être capable, justement, d'amener l'entreprise à prendre le virage, même quand ce sont des entreprises où ça demeure extrêmement difficile. Alors, donc, on va parler avec le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt tantôt. Il y a une étude qui laisse entendre que les médecins sont surpayés. Alors, mais c'est un... Ça, c'est le problème des études. Moi, je veux bien, là. C'est comme l'Institut économique de Montréal, qui est franchement à droite, toute vapeur, et vous avez l'IRIS qui est à gauche. C'est parfait, là. On connaît les couleurs. Alors, quand je vois des études passer, avant même de voir la conclusion, je suis capable de la deviner souvent, parce que il y a comme un biais. Dans le cas des médecins... On laisse entendre que ça coûte 1,5 milliard de dollars par année en trop. En trop, ce qu'on appelle une sur-rémunération. Donc, trop payé. Une somme qui pourrait être utilisée autrement pour combler 60 % du manque à gagner dans le budget de la santé. Ça se peut. Ça se peut. Puis, quand on regarde les effets de la rémunération des médecins, prenons le cas des médecins de famille. Puis, je veux pas partir le docteur bashing ce matin, là, mais c'est clair que dans la prochaine année, il va y avoir un enjeu sur l'accès. Voici ce que l'on paye, voici ce qu'on donne aux médecins, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de plages horaires? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir un médecin? Et là, je parle même pas de la fin de semaine, là. Je parle de gens qui attendent, là, qui se font dire, vous avez pour 377 jours avant qu'on vous trouve un médecin. Est-ce qu'il y a beaucoup de médecins qui pratiquent pas temps plein, qui se disent après 3 jours, 4 jours, j'ai fait ma semaine, puis j'ai pas besoin de plus avec les augmentations. Je sais qu'il y a des tâches qui sont à l'hôpital, je sais qu'il y a un paquet de facteurs, là. Mais ça peut pas être toujours du côté de la Fédération des médecins et praticiens le mode excuse. On manque de médecins. J'ai pas besoin de voir tout le temps un médecin de famille. On s'est amélioré. On a atteint nos cibles. Tu sais, la cassette de l'excuse est, pas mal usée. Et toutes les tentatives qui sont faites pour, disons, contrôler voir les plages disponibles sont bloquées par le syndicat des médecins, pour la plupart. Alors, c'est clair qu'en année électorale, il faut être certain que la CAQ va prendre le ballon puis va en faire un enjeu et les docteurs vont, je dirais, de force, être obligés de se défendre pendant la période électorale. La presse, ce matin, nous raconte une histoire effrayante. Un militaire du Royal 22e Régiment, un Québécois, qui aurait donc braqué sans raison, son arme à feu à plusieurs reprises sur des enfants dans le cadre d'une mission au Sénégal. C'est en 2019. C'est un sergent, il ne l'est plus, là, Marc-André Lévesque, 34 ans, qui tenait des propos racistes face à des enfants au Sénégal, puis des locaux, là, les traitant de nègres, de singes et d'esclaves. Et les faits ont été exposés devant la cour martiale. La décision a été prononcée en novembre 2020, mais ça vient tout juste d'être rendu public. Et c'est pas juste un incident, là. C'est à plusieurs reprises qu'il a pris son pistolet et qu'il a braqué des enfants sénégalais. Il a usé de subterfuges pour attirer ses enfants à proximité de lui, pour ensuite les faire fuir en braquant son arme sans aucun motif. Il a armé à de nombreuses reprises son pistolet. Les enfants apeurés se sont enfuis en courant. En l'air qu'en bout de ligne, le pistolet n'était pas chargé. Durant la même période, il a accéléré de 30 à 50 km avec son véhicule en direction d'un groupe d'enfants lors d'une patrouille. Les épisodes de conduite dangereuse se sont produits à de multiples reprises. Bon, là, il est en appel de sa décision. On ne sait pas pourquoi il visait particulièrement des enfants. C'est un raciste, c'est quoi? Aucune idée. Mais disons qu'il a fait peur à bien du monde. Rapidement, pardon, dans les autres nouvelles, la fameuse clôture qui sépare Mont-Royal et Parc Extension, là, tu sais, comme d'un côté, les richissimes de Ville-Mont-Royal et de l'autre bord de la clôture, quartier d'immigrants, quartier défavorisé. Puis on veut pas que les pauvres traversent, hein, directement. Fait qu'on avait installé une longue clôture. Je me souviens d'une chicane à l'époque de l'Halloween, il y a quelques années. Alors, le candidat Denis Coderre dit qu'il veut se débarrasser de cette clôture pour qu'on puisse vraiment passer à autre chose. Et puis, un dernier mot. Notre ami M. Charlebois qui nous dit que 40% des Canadiens ont changé leurs habitudes d'achat. 86% des Canadiens observent que le prix des aliments est plus élevé qu'il y a 6 mois. Et que devant les prix, ben, on s'ajuste, on s'adapte. Et surtout, il y a une pratique, puis on en a souvent parlé, là, tu sais, qui consiste à pas changer le prix, mais à mettre moins d'items dans le sac. Moins de biscuits, moins de chips. Et tu as le droit de faire ça, parce que c'est indiqué, mais comme consommateur, on haït ça. À chaque fois que je vous parle de ça, m'envoyez des exemples précis, détaillés. Il y en a qui comptent les tranches de fromage, la longueur du rouleau de papier de toilette. Mais c'est vrai que tu coupes sur la quantité pour faire croire aux gens que les prix n'ont pas changé.
L'essentiel de Paul Arcan.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Alors, Québec a annoncé hier que la troisième dose du vaccin sera disponible pour les personnes âgées qui vivent dans des centres de soins de longue durée, dans des résidences privées, des ressources intermédiaires, et que cette campagne de vaccination va être jumelée à celle qui est prévue pour l'influenza. Et donc, quelque part à la fin octobre, on devrait être en mesure de le faire. On va faire le point, justement, sur cette troisième dose avec le Dr Carl Weiss. Dr Weiss, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
Première question simple un peu que les gens se posent. Est-ce qu'elle est différente des deux premières qu'on a reçues ou c'est carrément la même chose?
C'est carrément la même chose, sauf pour les gens qui ont déjà reçu, par exemple, des doses d'AstraZeneca ou du vaccin Covishield qui est un dérivé d'AstraZeneca. Mais il faut comprendre qu'actuellement, les deux vaccins qu'on a au Canada, Pfizer et Moderna, donc ceux qui ont reçu du Pfizer vont recevoir une dose de Pfizer, ceux qui ont reçu du Moderna vont recevoir une dose de Moderna. On peut interchanger les doses entre ces deux fabricants, c'est pas quelque chose qui est complètement impossible à faire. Ça a été fait puis ça marche bien. Maintenant, c'est pas la routine habituelle, mais par contre pour les gens qui ont reçu par exemple une première dose d'AstraZeneca, souvent ces gens-là ont reçu une deuxième dose de Pfizer ou Moderna, donc ils vont recevoir la troisième dose qui risque de ressembler à la deuxième. Et il y a quelques individus qui ont reçu deux doses d'AstraZeneca, ben eux, ils recevront soit le Pfizer, soit le Moderna.
Et il n'y a pas de contre-indication?
Non, il n'y a pas de contre-indication à recevoir une dose d'un vaccin différent. Disons que globalement, c'est équivalent. Dans la littérature médicale, il y a des articles et des gens qui ont dit même au contraire, c'était peut-être avantageux de recevoir des vaccins différents, que ça stimulait le système immunitaire à différents endroits et donc en bout de ligne, on était peut-être mieux protégé, on avait plus d'anticorps. D'autres articles qui ont dit le contraire, mais la somme et la réalité, si on peut résumer, c'est que c'est équivalent.
Maintenant, le fait de jumeler cette troisième dose avec le vaccin pour l'influenza, est-ce que là, il y a des risques? Il y a des gens qui se disent, est-ce que je prends les deux en même temps, là?
Ben, il y a des risques que vous pouvez avoir plus d'effets secondaires parce que lequel va vous donner des effets secondaires par rapport à d'autres. Mais ceci étant dit, il n'y a pas de risque qu'un empêche l'autre de fonctionner. Il faut dire qu'on a une très faible saison d'influenza actuellement. On n'a quasiment pas de grippe. L'an dernier, on a eu une année exceptionnelle dans le sens qu'on a eu quasiment zéro grippe. Donc, il n'y a pas eu de grippe. Et l'ensemble des mesures qui avaient été prises, finalement, pour empêcher la COVID de se propager, c'est-à-dire le masque, la distanciation, le fait d'isoler les gens, le couvre-feu, l'ensemble des mesures qui avaient été prises, le fait que, par exemple, l'école avait été extrêmement réduite, puis il n'y avait pas de cégep et pas d'université en présentiel, tout ça avait fait que la grippe l'an dernier n'existait pas. Alors, est-ce qu'il va y avoir une grippe cette année? C'est possible, à mon sens, ça risque d'être une petite année ou très petite. Là, on voit d'ailleurs l'activité grippale est nulle au Québec actuellement. Donc, on voit qu'il n'y en a pas de grippe. Ce qu'on voit, c'est que dans les pays de l'hémisphère sud, vous savez qu'ils sont toujours en avance d'une saison parce que leur hiver, c'est notre été. Donc, lorsque nous avons traversé l'été, c'était l'hiver, disons, en Australie, au Brésil, en Argentine. Ça a été des saisons de grippe, on va dire, extrêmement faibles. Donc, la chance, c'est que la grippe ne frappe pas trop vraiment à nos portes. Et si on reste comme ça, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Mais pour résumer les choses, que vous ayez les deux vaccins ensemble, l'un n'intervient pas avec l'autre, donc il n'y a pas de contre-indication. Oui, vous pourriez, par exemple, avoir plus de réactions parce que vous allez réagir au vaccin contre la grippe et vous allez réagir ou vous allez réagir au vaccin contre la COVID avec des effets secondaires attendus. Donc, ça va être l'un ou ça va être l'autre.
OK, parlons des enfants. Parce qu'on est toujours dans l'attente. Je pense que Pfizer n'a pas encore soumis ou est sur le point de le faire, là, ses études concernant la vaccination des plus jeunes. Québec dit ben, quand ça va être autorisé, peut-être fin novembre, au début de l'année. Mm-hmm. Pour les enfants actuellement, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de cas. Je regardais la fréquentation de l'urgence pédiatrique, bon, Sainte-Justine et autres, des parents qui se présentent. Parfois, c'est des symptômes de COVID, puis parfois, c'est autre chose. Comment on explique cette situation-là? L'indice grippal, vous dites, est bas, mais les enfants, eux, sentent moins bien.
Ben, il y a d'autres virus, par contre, qui circulent. Alors, l'indice grippal est bas, mais le RSV, le virus respiratoire syncytial, est présent au Québec de façon, je dirais, non négligeable. Il y a eu plus de 500 cas répertoriés la semaine dernière. Vous savez que tous les laboratoires de microbiologie du Québec suivent un certain nombre de virus, on compile les données au niveau du ministère de la Santé, et donc on a une espèce de courbe hebdomadaire du nombre de virus isolés au Québec. C'est une sous-représentation de la réalité, parce qu'évidemment, on ne teste pas tout le monde. Donc, on a probablement seulement un 20e ou un 30e des cas réels. Mais on sait que ça nous donne une idée de ce qui circule dans la communauté. Et on sait qu'actuellement, il y a même certains virus de la grippe, des coronavirus, mais pas corona, bien sûr, COVID, le coronavirus commun responsable de la grippe qui circule. On sait qu'il y a surtout du virus qu'on appelle le RSV. Donc ça, ça se peut que les enfants soient affectés par ça. Et c'est ce qu'on voit la plupart du temps. Mais là, je vous dirais, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Le fait d'avoir rouvert les garderies, retourné à, si vous voulez, un présentiel, surtout pour les plus petits, c'est sûr que ça favorise l'émergence de virus respiratoires à cette saison de l'année. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir une perte de contrôle de la COVID pour l'instant. Puis il y a aussi une théorie qui est intéressante, mais qu'on appelle l'interférence en virologie, qui dit que lorsqu'on est infecté par un virus, il y a une compétition entre les virus. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut chercher à se faire infecter avec l'un pour éviter l'autre. Mais souvent, lorsque vous avez deux virus, disons que vous attrapez le RSV, le virus respiratoire syncytial, ben, il ne voudra pas laisser sa place à un autre virus. C'est-à-dire que une fois qu'il est chez vous, ben, il empêche les autres virus de rentrer dans vos cellules et donc il veut garder l'exclusivité. Alors souvent ce qui arrive, c'est que lorsqu'un virus a tendance à prendre le dessus, les autres ont tendance à plutôt être faibles. Et d'ailleurs on le voit au Québec sur des années, on a des grosses années dans le passé d'influenza, donc de grippe, et puis on a des petites années de gastro-entérite. Et des fois ben, c'est le contraire, on a de grosses années de gastro-entérite, de petites années de grippe. Donc, mais même si c'est deux sites différents, un est respiratoire et l'autre est digestif, souvent on voit cette interférence entre les virus. Donc il y a une compétition aussi entre les virus, et on sait que chez les enfants, avec le retour à l'école, la garderie, tout ça, c'est normal d'avoir les rhumes habituels qui reviennent, on va dire.
Je regardais le tableau du ministère de la Santé. 84% des Québécois de 12 ans et plus ont reçu la deuxième dose, 89% au moins une dose. À quel moment, puis est-ce que c'est une référence pour se dire, ben là, collectivement, on est pas mal vaccinés, on peut tranquillement y aller d'assouplissement puis d'allègement des mesures sanitaires?
Bon, la première chose qu'il faut souligner, je pense que le Québec est une des juridictions où on a le plus fort taux de vaccination dans le monde, et ça, c'est extraordinaire et c'est très, très bien. Il faut voir que l'immense majorité, quasiment 90% des Québécois, sont aujourd'hui doublement vaccinés et protégés. Donc, sur cet aspect-là, on peut être que très satisfait. La deuxième chose, on le voit, cette quatrième vague n'a pas du tout l'impact que les autres vagues ont eu au Québec, puisque le nombre de cas, on va dire, stagne autour de 700, 800 en moyenne. Le nombre d'hospitalisations n'a certainement pas augmenté de façon drastique au point de faire crouler le système de santé. Même, je vous dirais que la majorité, l'immense majorité des hospitalisés, ce sont des non-vaccinés beaucoup plus jeunes. Donc, on s'aperçoit que finalement, la vaccination a fonctionné. Et on est retourné dans une société presque normale. Hein. On va au gym, on va à l'école, on va au restaurant, on fait des activités culturelles, on fait du sport. Les gens se reçoivent, les écoles ont complètement ouvert. Hein. Vous voyez les universités, les cégeps, etc. Donc, on est retourné vers une vie assez normale. Complètement normale, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde, là, global, où la COVID n'est pas partout contrôlée comme elle l'est au Québec. Donc, c'est clair qu'on n'est pas encore dans un retour à la vie normale et il va falloir apprendre à vivre avec cette espèce d'équilibre entre, je vous dirais, un nombre de COVID à feu doux qui est tout le temps persistant, qui est en arrière, si vous voulez, de notre tête, mais un contrôle de l'épidémie à l'échelle du Québec qui nous permet, pour l'instant, de continuer à avoir une vie normale, puis il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas comme ça.
Est-ce que vous croyez qu'après cette troisième dose, quelque part l'an prochain, il y aura une quatrième dose et que ce vaccin-là va devenir peut-être même annuel comme les celui de la grippe?
C'est fort possible. C'est un vaccin. Le virus de la COVID est un virus à ARN comme celui de l'influenza. Ce sont des virus respiratoires, ce sont des virus qui mutent beaucoup et ce sont des virus qui sont présents continuellement sur la planète. C'est-à-dire que pour se débarrasser de la COVID, il faudrait se débarrasser de la COVID à l'échelle planétaire. Et tant qu'il va y avoir un foyer quelque part, ben c'est c'est une source de résurgence et de recommencer encore à avoir une propagation de la maladie. En plus, il y a des réservoirs animaux qui sont probablement les chauves-souris. Donc, est-ce qu'on va être pris à donner des vaccins de façon annuelle? C'est possible pour certains sous-groupes. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est combien de temps va durer votre protection selon votre groupe d'âge, votre état de santé, etc. Donc, on va peut-être voir, par exemple, on va dire dans 3 ans, si vous avez moins de 45 ans et vous êtes en santé, après 3 ans, bon nombre d'entre vous sont encore protégés, vous n'avez pas besoin de rappel. Par contre, si vous avez plus de 75 ans, vous êtes mieux d'avoir un rappel annuel parce qu'on sait que la diminution de l'immunité avec l'âge, qu'on appelle l'immunosénescence, est beaucoup plus importante dans ce groupe d'âge-là. Donc, c'est fort possible qu'on soit pris à faire des rappels répétés à des populations plus à risque parce qu'ils répondent moins bien. Je pense par exemple aux dialysés, aux gens qui ont des traitements de chimiothérapie, aux gens qui ont des traitements qu'on appelle immunosuppresseurs, par exemple pour la maladie de Crohn ou pour des arthrites rhumatoïdes, donc des populations spécifiques. Pour les gens plus âgés, parce qu'on sait qu'ils répondent moins bien aux vaccins et que la durée de l'immunité est moins grande, après 6 mois, la tendance à chuter. Mais pour les plus jeunes et les plus en santé, ça risque d'être une autre stratégie. Mais on est là avec ce virus pour certainement quelques années, et dans cette optique-là, il va être à l'état, je dirais plus pandémique, mais à l'état endémique, c'est-à-dire qu'on vivra avec, et donc là on est retourné quand même à une vie presque normale, je dirais, et c'est quand même encourageant à cet égard.
Merci beaucoup, Dr. Weiss, bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Dr. Carl Weiss, microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal.
L'essentiel de Paul Arcan.
On va parler de la situation dans les salles d'urgence des hôpitaux pédiatriques de Montréal. On pense bien sûr à Sainte-Justine, alors que l'urgence est vraiment engorgée de telle sorte qu'on vient d'offrir aux parents, quand c'est pas un besoin immédiat et urgent, d'avoir un rendez-vous dans les 24-48 heures, plutôt que de se rendre comme ça à l'hôpital Sainte-Justine. Docteur Marc Girard est le directeur des services professionnels de Sainte-Justine. Docteur Girard, bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, c'est quoi l'état actuellement à la salle d'urgence? J'ai vu de vos collègues dire qu'ils n'avaient jamais vu autant de patients se présenter.
Oui, tous les jours, il se présente environ 300 enfants dans nos salles d'urgence. Habituellement, c'est autour de 200 patients par jour. Et là, on a un volume de 300 patients depuis environ 3 semaines.
Est-ce que vous savez pourquoi?
La raison principale, c'est que les virus respiratoires qui donnent mal de gorge, qui donnent la toux chez les enfants, qui habituellement apparaît vers octobre-novembre, est apparu très précocement cette année. Plus les enfants l'an passé étaient en confinement, donc ils n'ont pas été beaucoup en contact avec ces virus-là. Donc là, ils sont revenus à l'école ou dans les CPE et ils sont en contact ensemble. Et on voit apparaître là, vraiment beaucoup de ces tableaux respiratoires qui ne sont pas le COVID. Parfois, rarement, c'est le COVID, mais la majorité du temps, c'est d'autres types de virus.
Et vous évaluez à quel pourcentage le nombre de ces patients, de ces enfants qui, normalement, devraient être vus en clinique GMF, médecin de famille, pédiatre?
Plus de la moitié. Plus de la moitié, la centaine de patients qui se sont ajoutés cette année font partie justement de cette catégorie que nous, on considère en triage de 4 et 5. Donc, des enfants qui devraient être vus dans les 24-48 heures suivant ces symptômes-là. Mais l'inquiétude des parents, plus la notion du COVID circulant, fait qu'à quelque part, les parents viennent consulter, veulent une réponse aux symptômes de l'enfant.
Puis il n'y a pas aussi une difficulté, puis c'est souvent le réflexe de parents, d'enfants, de dire... Je suis pas capable de trouver un rendez-vous. J'appelle à un sans rendez-vous, c'est déjà plein. On me repose dans 72 heures. Bref, l'incapacité d'avoir une place dans le système pousse les parents à aller vers l'hôpital.
Tout à fait. Et c'est pour ça que là, on a mis en place, le ministère nous a aidé à mettre en place des plages sans rendez-vous. Donc, environ 600 plages tous les jours qui vont être ouvertes, là, de 8h à 20h, où il y a des médecins de famille qui vont pouvoir accueillir ces enfants-là, les évaluer, traiter aux besoins si nécessaire. Mais c'est vraiment pour améliorer l'accessibilité qu'on a mis en place, là, ce numéro unique-là pour la région de Montréal et des numéros là dans la couronne du 450 qui permet aux parents d'avoir un rendez-vous la journée même ou dans les 24 heures.
On a presque le goût de se dire ça devrait être comme ça à l'année.
Je pense qu'on va s'en inspirer pour les hivers prochains.
Parce que souvent, je vous donne un cas, je connais quelqu'un qui s'est présenté à l'urgence, on lui a dit, c'était pas chez vous, là, il y a 15 heures d'attente. Alors, question, pouvez-vous me référer vers une clinique? Réponse, non. Il me semble que...
De fait, c'est l'accessibilité, vous mentionnez très, très bien, c'est qu'il faut rendre accessible le sans-rendez-vous, là, ce qu'on appelle des rendez-vous non planifiés, parce que ce que l'on voit la plupart du temps, ce que vous avez évoqué, c'est des rendez-vous planifiés. Donc, on vous donne un rendez-vous dans 3 ou 4 jours. Alors, ce que les familles, les parents souhaitent, c'est ce qu'on appelle un rendez-vous non planifié. Donc, un rendez-vous qui a l'air d'un sans-rendez-vous, mais qui est orchestré, qui est organisé, fait que le parent ne va pas aller dans un sans rendez-vous attendre, mais il va avoir un rendez-vous ce soir à 17h30 ou demain à 9h30. Donc, ça va donner une accessibilité sur une plage horaire qui est définie et qui se fait dans un court laps de temps. Parce que les parents, face à un enfant qui fait de la fièvre, ben ils sont inquiets puis ils veulent une réponse.
OK. Mais est-ce que les parents vont quand même composer le 8-1-1?
Non.
Non?
Ce n'est pas nécessaire de composer. S'ils font le 8-1-1, rapidement, ils vont être réorientés vers ce numéro unique-là, là, qui est le 514-890-6111. Et un appel, un rendez-vous.
Parfait. Merci beaucoup, Dr. Girard.
Parfait, merci.
Au revoir. Dr. Marc Girard est le directeur des services professionnels de Sainte-Justine. Je vous rappelle le numéro, là, 514-890-6111. 890-6111. Et on souhaite qu'on implante ça. Combien de fois tu dis, je viens à l'urgence parce que j'ai pas d'autre place à aller. Puis c'est pas une urgence urgente. Regardez 50% des cas qui devraient être ailleurs. Puis c'est souvent le cas, on le sait. Puis regardez tous les cas de gens qui ont quitté l'urgence sans même avoir été vus par un médecin.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Bien content de retrouver, on a travaillé pendant quelques mois ensemble avec Dany, Jean-Philippe Cyr, qui arrive ce matin avec son livre « Réconfort vegan ». Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci.
Parle-moi un peu de ta période de COVID puis de confinement, comment t'as vécu ça?
Ben les vegans, nous autres, on est habitués de pas avoir de vie sociale, ça fait que ça a rien changé. On est habitués de pas avoir de visite?
Non!
Ça arrive. Puis j'en ai profité pour faire ce livre-là. C'est le fun parce qu'on sortait pas bien au restaurant. Hein? Ça fait que on créait des recettes. Ça fait que j'arrive avec ce livre-là, qui est encore une centaine de recettes. C'est mon troisième livre. C'est des recettes réconfortantes. Je suis vraiment allé chercher des recettes d'enfance que j'avais, que ma mère cuisinait, que ma grand-mère cuisinait. Il y a même un pudding chômeur là-dedans.
OK, puis là, tu dis, c'est ça, tu le transformes en plat vegan.
Oui, moi, je transforme tout en plat vegan. Puis mon but, moi, c'est que la personne, elle ouvre le livre à la librairie puis qu'elle se dise qu'elle se rende même pas compte que c'est vegan. Parce que si on regarde ce livre-là, il y a du poulet frit vegan, il y a du macaroni saucisse italienne, il y a des pâtes, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans, puis on peut pas dire que c'est vegan parce que moi, ma mission... Tu sais, des fois, les vegans ont une mauvaise presse, hein? Il y a des vegans qui font irruption dans un restaurant avec des pancartes, qui manifestent. Moi, c'est pas mon cas. Je suis plus pragmatique que ça. Je me dis que il faut éduquer les gens. Il faut éduquer le public. Parce que selon l'Université Dalhousie, il y a un sondage qui a été fait en 2019, 50% des Canadiens étaient prêts à réduire leur consommation de viande. C'est quand même la moitié du monde qui se disent, moi, je veux manger moins de viande, mais ils savent pas par où commencer. On sait pas. Qu'est-ce qu'on
fait? Toi, ta stratégie, c'est aussi de les attirer en disant, je ne vais pas vous confondre, là, mais moi, je regardais tes photos, là, puis je disais, OK, c'est un plat de macaroni. Bon, je savais que... Mais quelqu'un qui passe vite là-dessus dit, c'est un macaroni classique avec de la viande.
Ben oui, les saucisses italiennes,
okay, mais
vegan.
La photo, c'est une chose. Le goût.
Le goût, c'est la même affaire.
Comment tu fais ça?
La saucisse italienne là, que j'utilise dans mon macaroni, c'est une saucisse italienne vegan. Ça goûte la même affaire que ta saucisse. On est rendu là avec des produits extraordinaires vegan dans les épiceries. Il y a le Impossible Burger, le Beyond Meat. Toutes des boulettes à burger, ça goûte la même affaire. Les saucisses italiennes, ça goûte la même affaire. Les fromages vegan, Moi, quand j'ai commencé là, à écrire des livres de recettes, il y a 6 ans, je pense qu'il y avait 3-4 fromages véganes à l'épicerie. Au IGA, j'ai compté 50 sortes de fromages véganes. Du fromage à poutine, du fromage à pizza, du fromage feta, du suisse, toutes les sortes de fromages véganes maintenant. Ça fait que c'est facile de créer des recettes avec des produits comme ça qu'il y a à l'épicerie. Parce que moi, mon but, c'est que ça soit familier. Tu sais, c'est plate quand t'essayes de faire une recette, pis t'es obligé de faire 5 épiceries pour trouver.
Ça, c'est sûr.
Tu sais, moi, je veux que ça soit, s'il n'y a pas au IGA, je substitue par d'autres choses. Ça, ça fait que mes recettes, c'est souvent des recettes qui sont abordables, qui sont faciles à faire, pis qui plaisent à tous. Parce que, si tu veux convaincre ta famille de manger moins de viande, faut que ça soit le fun. Faut que ça soit bon. Faut que ça soit familier. Si tu donnes un gros bol de tofu à ta famille crue, là, et...
Ça se peut que la vente soit difficile.
Fait que moi, j'utilise des ingrédients comme le tofu, mais je l'apprête différemment. Je fais du tofu à l'orange, je fais du tofu moutarde d'érable, j'ai plein de recettes de tofu. Il n'y a pas juste du tofu dans mon livre, mais moi, j'aime bien le tofu, puis je me demande comment ça se fait que le tofu, ça a mauvaise presse.
Ben, souvent parce que les gens l'ont goûté la première fois, comme tu dis, nature comme ça, puis...
Quand j'étais jeune, ma mère, elle m'a fait du tofu, puis ça a pris 20 ans avant que j'en mange.
Tu vois?
Je sais pas pourquoi ils mettaient de la sauce soya là-dessus pis d'attitude. C'est pas ça. Du tofu, là, premièrement, faut savoir quoi faire avec. Moi, je donne toujours un truc. On le coupe en dés. On met du cornstarch, fécule de maïs. On l'enrobe bien en fécule de maïs. On le fait frire dans l'huile, un petit peu d'huile. Puis ça, là, toute la famille capote là-dessus. Ça vient croustillant. Ça change la texture du tofu. Parce que souvent, ce que les gens aiment pas.
C'est la texture.
C'est la texture. C'est un petit peu mou, mais en le rendant croustillant. Puis ça. C'est très bon pour la santé, le tofu. C'est plein de. Ça n'a pas de cholestérol, c'est plein de protéines. Ça coûte pas cher. C'est la moitié du prix du bœuf haché, le tofu.
Et c'est pas comme si on remonte dans le temps où c'était plus difficile à trouver, ou en tout cas c'était plus. Je parle pas des gens de Montréal, mais des gens qui étaient en région ou dans les villages où il fallait que tu roules longtemps pour en trouver. Là.
Oui, mais maintenant.
Maintenant, c'est accessible.
C'est accessible. Puis on est chanceux parce que j'étais allé en France en tournée de promotion l'année passée, il y a 2 ans. Ils n'en ont pas de tofu.
Parce que?
C'est pas connu là-bas. Ils sont comme 10 ans en arrière de nous autres, les Français. Mon livre, il sort en France, puis je suis obligé d'adapter les affaires parce qu'ils n'ont pas tous les produits là-bas. Il y a même du tempeh en France. C'est très, très peu connu. Je faisais une démonstration culinaire, puis j'avais appelé à l'épicerie. J'avais dit, pouvez-vous me garder du tempeh, s'il vous plaît? Je vais aller chercher dans 1 heure. Elle dit, il n'y a pas de danger que tu te le fasses voler, ton tempeh.
Mais quoi, il embarque pas du tout, là?
Personne n'achète ça.
Mais alors, quand t'as fait ta tournée, quelle sorte d'accueil t'as eu?
Ben, c'est dithyrambique là-bas. Là. Les gens, il y en a du monde vegan là-bas. Mais c'est juste que à toutes les fois qu'ils voient mes posts, puis ils voient mes recettes, puis mes posts, les photos que je prends à l'épicerie, ils sont toujours jaloux. Ils se disent « Colin, vous avez donc ben du choix au Québec dans les produits sans viande. » Puis ils sont jaloux aussi parce qu'on a du sirop d'érable. C'est un peu ma marque de commerce. Moi, je mets du sirop d'érable partout. Mais eux autres, les Français, ils nous disent « Colin, ça coûte donc ben cher tes recettes. Ici, t'as un pot de sirop d'érable. » 250 ml, ça coûte 14$. Tu comprends? Puis c'est même pas du sirop d'érable.
Mais en même temps, c'est vrai dans beaucoup de livres de recettes, c'est-à-dire que les chefs font prendre des produits locaux. T'sais, je regarde des recettes faites par des chefs à l'extérieur, ben c'est sûr que plus difficile à trouver ici, il y a des questions de saison, puis il y a des questions de... T'sais, au Telenghi, par exemple, il propose un paquet de recettes, tu regardes, tu dis, wow, t'es peu, là, c'est pas sûr qu'on va être capable de trouver tous les ingrédients possibles.
T'es pas capable souvent de les trouver.
Ben c'est ça. Alors que le sirop d'érable, ici, on l'a comme les citrons à côte Amalfi.
Ben oui, puis il faut... Tu sais, moi, ma mère, c'était une grande cuisinière. Puis ça l'est toujours, d'ailleurs. Puis elle avait peut-être 40aine de livres de recettes. Mais elle en utilisait 1 ou 2. Il y en avait un, il était magané, là. toutes les pages étaient collées. Moi, on mangeait tout le temps ça. C'était Paul Martin. C'était fait avec des ingrédients simples que tu trouves à l'épicerie. Puis c'était des recettes relativement faciles, bonnes au goût. Puis c'est des winners. C'est des winners. C'est ça que je fais dans mes livres de recettes. Faut que ça soit un winner. Faut pas que ça soit une recette. Tu dis, ouais, correct. Tu sais, il y en a des livres de recettes maintenant, puis il y a tellement de recettes sur Internet. Tu dis, ouais, c'est des recettes, c'est correct. Tu sais, ça fait un job. Mais moi, je veux que ça soit wow. Puis ma plus fervente critique, c'est ma femme. Ma femme, quand je l'ai rencontrée, elle mangeait pas de champignons. Elle mangeait pas grand-chose. Fait qu'au fur et à mesure, quand je suis devenu vegan, je l'ai converti au véganisme, puis je l'ai converti à la cuisine, puis. Mais t'as encore fine bouche. Ça fait que si je fais quelque chose, j'y sers ça. La majorité du temps, elle va dire, on retravaille un petit peu. Okay. Jusqu'à temps que ça soit parfait. Mais si ça plaît à elle, ça va plaire à n'importe qui.
Est-ce qu'il y a des plats plus difficiles à transformer en vegan?
Le poisson. Tu sais, la viande, c'est facile parce que tu peux prendre du tofu. Le poisson, là, c'est difficile. Moi, je vais tout le temps chercher les algues nori. Mm-hmm. Tu sais, les algues à sushi. J'ai défait un petit morceau, un petit bouchée. Je fais mariner mon tofu là-dedans avec un petit peu de jus de citron. Puis je fais un fish and chips avec ça. C'est assez méprendre. Parce que t'as le goût de la mer avec les algues. Sauf que c'est la texture du poisson. Parce que le poisson, c'est floconneux. C'est difficile d'aller chercher la texture. Mais le goût est là.
Il y a une surprise dans ton livre.
Oh là là.
Tu le sais. Là, je fais une tête. Je regardais ça. Puis là, je tombe sur une photo.
Oh boy.
C'est une photo, il y a le foyer à l'arrière. T'es en robe de chambre. Puis c'est comme une espèce de... qui se déplie, là, la grande photo. C'est un centerfold.
Un centerfold.
Explique-moi pourquoi t'as pensé à ça.
Je me suis inspiré de Burt Reynolds dans le temps qu'il avait sa fameuse photo couchée sur une peau d'ours. Là, puis quand j'ai reçu le livre, là, j'étais gêné un petit peu quand j'ai vu la photo.
Avec sérieusement, la guitare, là,
j'ai une robe de chambre là, brune.
Ouais.
C'est inspiré des années 70. Parce... on avait fait un dans l'autre aussi où j'étais comme couché devant un feu de foyer. Puis c'est comme devenu ma carte de...
Puis t'as justement du sirop d'érable à la main.
Je suis en train de boire une canisse de sirop d'érable.
Non, mais...
ben, faut que ça soit drôle, faut que ça soit fun.
Ben oui, c'est
faut
sûr.
Faut que ça soit le fun.
Quels sont tes projets, à part le livre, là?
À part le livre, ben là, on sort une bûche de Noël chez IGA. J'ai déjà une...
ah oui?
Oh, oui, on sort une bûche de Noël cette année pour Noël, une bûche aux framboises qui est extraordinaire. On sort un... on continue avec notre tourtière.
Ouais.
Tourtière de Noël, ça a été le produit le plus vendu VG dans tous les IGA l'année passée. Ça ressort pour Noël. J'ai sorti des sauces récemment chez IGA, sauce à spaghetti bolognaise qui a un succès fou. Toujours mon prêt à manger. Ça fait qu'on travaille toujours à développer des nouveaux produits vegan. Puis c'est des produits que tu goûtes et tu dis, c'est pas vegan. Ça se peut pas que ça soit vegan. C'est ça le but. C'est que ça goûte.
Mais c'est comme tu dis, les protéines sont là, pas de cholestérol, puis en plus, moins cher.
Voilà.
Ça rejoint pas mal de cibles en même temps.
Voilà.
Jean-Philippe, merci beaucoup d'être venu ce matin de présenter ton livre.
Merci.
Et ça s'appelle donc La cuisine de Jean-Philippe, mais c'est Réconfort vegan.
L'essentiel de Paul Arcan.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.